Soyez les bienvenus sur Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 12 novembre. Marion Lourd, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, plus que quelques heures pour parvenir à un accord contre le réchauffement climatique. La COP26 s'achève ce soir à Glasgow en Écosse. Nous y serons dans un instant après les autres titres, Marion.
Nos enfants trop exposés sur Internet à la pornographie et au harcèlement. Le Forum de Paris sur la paix lance un appel à l'action. Les députés français veulent légiférer pour renforcer le contrôle parental. Dans le journal aussi, cette question: qu'est-il arrivé à la joggeuse mayonnaise de 17 ans disparue plusieurs heures en début de semaine? Impossible de confirmer sa thèse de l'enlèvement, les enquêteurs l'entendront à nouveau aujourd'hui. Et puis ceux qui l'aiment prendront le RER B, cette ligne ferroviaire, et ceux qui l'empruntent sont en vedette du nouveau documentaire d'Alice Diop projeté ce soir au Festival Ciné Banlieue.
Invités et rendez-vous d'Inter ce matin à 7h45, vous le disiez Marion, la COP26, quel bilan peut-on en tirer? On verra quelques heures avant sa clôture. C'est le thème du débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux. À 8h20, le grand entretien de la matinale avec une invitée exceptionnelle, la lanceuse d'alerte américaine Frances Haugen. Elle dénonce les dérives de Facebook, le plus grand réseau social au monde.
France Inter. Dernière ligne droite pour sauver la planète. Les 200 négociateurs internationaux présents à la COP26 ont officiellement jusqu'à ce soir 19h pour parvenir à un accord. Objectif ambitieux, tenir les promesses de financement d'aide climatique et maintenir en vie l'objectif de l'accord de Paris, 1,5 degré de plus maximum par rapport à l'ère pré-industrielle. Difficile forcément d'arriver à l'unanimité. Vous suivez ces discussions délicates pour France Inter à Glasgow. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
La présidence britannique de la COP26 doit présenter ce matin une nouvelle mouture du texte final.
Oui, ce texte doit insister sur l'objectif, vous le disiez, le plus ambitieux de l'accord de Paris, limiter le réchauffement climatique non pas à 2 degrés, mais à 1,5 degré et appeler les pays à faire plus d'efforts. Mais il reste des points de blocage, notamment sur la question de l'aide financière aux pays pauvres. Autre interrogation, y aura-t-il un paragraphe pour dire qu'il faut accélérer la sortie du charbon et arrêter les subventions aux énergies fossiles responsables de la plupart des émissions de gaz à effet de serre.
Et à quelques heures de la fin de cette COP, dernier coup de pression, Sandy.
Oui, il y a eu hier l'appel des 200 climatologues pour dire en substance, c'est bien beau de lire nos rapports et maintenant il faut agir rapidement, promettre une neutralité carbone au milieu du siècle, ça ne va pas suffire, il faut réduire drastiquement les émissions dès 2030. Or, pour l'instant, elles continuent d'augmenter. Hier, à la tribune de la COP26, Vanessa Nakate, jeune activiste d'Ouganda, a aussi fait entendre la voix d'une génération désabusée.
Let us be honest. There have been 25 COPs before this one.
Soyons honnêtes, il y a eu 25 COP avant celle-ci, et chaque année, les chefs d'État viennent à ces négociations climatiques avec une foule de nouveaux engagements et de promesses. Et de COP en COP, les émissions continuent à augmenter. Je suis venu vous dire que nous ne vous croyons plus. Mais s'il vous plaît, montrez-nous qu'on a tort.
Le ton du secrétaire général des Nations Unies n'est guère plus optimiste. Antonio Guterres reconnaît qu'il y a eu des annonces encourageantes à la COP26, mais dénonce surtout des promesses qui sonnent creux quand les énergies fossiles continuent de recevoir des milliers de milliards de dollars de subventions.
Vous suivrez les dernières tractations pour nous en Écosse. Merci à vous Sandy Dauphin et merci à Martin Troadec pour la liaison technique. Décarboner, oui, mais à quel prix? Au Liban, c'est à prix d'or. Là-bas, les restrictions énergétiques, les coupes pure et la flambée des prix provoque une ruée vers les panneaux solaires. De plus en plus de Libanais veulent s'équiper. Correspondance Aurélien Colli.
Depuis qu'elle a installé 4 panneaux solaires sur le toit de sa maison, Myrna a retrouvé le sourire. 24 heures d'électricité par jour au lieu de 6 avec un groupe électrogène qui engloutissait une bonne partie de son salaire.
Toute la journée sans électricité, donc il faut vider le réfrigérateur. Travailler à la maison, c'est pas possible, pouvait pas avoir l'internet. Avant d'installer les panneaux photovoltaïques, c'était vraiment le chaos. C'est toujours cher, mais c'est rentable.
Solution rentable et même de bon sens dans un Liban qui connaît 330 jours d'ensoleillement par an. Jihad Gora s'est lancé dès 2009. Sa PME vient d'équiper la maison de Myrna.
Le solaire, c'est une solution 100% viable pour le Liban. Le seul problème, ce sont des politiciens. Ils pensent à des solutions où ils peuvent prendre des commissions. Et quand il y a le mazout, où il y a le fuel, chaque jour, ils peuvent toucher quelque chose. Donc la seule solution pour tout le monde, c'est d'installer des systèmes solaires.
Impossible aujourd'hui pour une majorité de Libanais, car tout est importé, tout se paye en dollars, alors que la livre libanaise s'est effondrée, que les salaires ont fondu et que les banques bloquent l'épargne.
Une petite famille, ça coûte 3 500 $. Tous les gens ne peuvent pas installer ça. Mais quand on a quelqu'un qui travaille ailleurs et qui leur envoie du dollar aussi, c'est la priorité maintenant.
Des ONG commencent aussi à équiper des écoles, des hôpitaux ou de simples particuliers. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Plus que quelques heures pour faire le tour de ces questions, donc même si on l'a compris, la COP26 pourrait jouer les prolongations. Aider la Libye à sortir de la crise, c'est l'agenda de la communauté internationale réunie aujourd'hui à Paris. Une trentaine de dirigeants autour du président français pour soutenir la bonne tenue des élections présidentielles et législatives prévues le 24 décembre. On en parle dans le journal de 7h30 sur Inter.
Il est 7h06, Marion, la cinquième vague de Covid de plus en plus concrète.
La preuve en chiffres avec le dernier bulletin de Santé publique France, en une semaine, le taux d'incidence a bondi de 44% à 90 pour 100 000 habitants. Hausse plus marquée chez les trentenaires et en Corse, Provence, Alpes, Côte d'Azur, Pays de la Loire et Outre-mer. Là, c'est parfois la santé mentale des enfants qui est en jeu. Les mineurs, trop souvent exposés sur Internet au contenu pornographique, aux trafics humains et au cyberharcèlement, le Forum pour la paix qui se tient en ce moment à Paris lance un appel à l'action pour la protection en ligne, soutenu par l'UNICEF et l'Élysée. Il faut dire que la France se veut en pointe avec une proposition de loi tout juste déposée par les députés de la majorité. Réponse concrète à un problème bien réel, Yann Gallic.
En France, plus de 80% des enfants de 10 à 14 ans disent aller régulièrement sur Internet tout seul et à peine la moitié des parents surveillent l'activité de leur enfant sur le web, selon une récente étude menée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Un constat inquiétant, estime Bruno Studer, le député La République En Marche du Bas-Rhin, qui préside la commission des affaires culturelles à l'Assemblée.
Il y a des enfants qui, de façon accidentelle, tombent sur des contenus qui sont totalement inappropriés pour eux. Il y a trop peu de parents qui se saisissent de cela. Et parmi les parents qui ne s'en saisissent pas, eh bien, on a une surreprésentation des catégories sociales les plus défavorisées parce que, tout simplement, ce sont celles aussi qui manquent de connaissances techniques pour manipuler ces outils. Installer un contrôle parental qui reste encore aujourd'hui souvent trop compliqué.
Avec cette proposition de loi, Bruno Studer veut donc obliger les fabricants d'appareils connectés à installer sur tous leurs produits un dispositif de contrôle parental systématique et simple à utiliser.
Les fabricants, ils sont pas forcément contents quand on leur impose des nouvelles contraintes. Et certains m'ont dit, vous comprenez, faire ça que pour la France, mais j'ai envie de leur dire quand même que la question des écrans, c'est pas une question française. Je pense qu'on est là face à un problème global. Et donc j'espère que cette proposition de loi va pouvoir faire avancer les choses.
Ce projet de loi devrait être examiné par les députés dès le mois de janvier.
Fini les coupures d'électricité pour les abonnés à EDF qui ne payent pas leurs factures. Information du journal Le Parisien ce matin. Désormais, l'opérateur se contentera de limiter la puissance de l'énergie distribuée. 200 à 300 000 foyers sont concernés chaque année.
7h08, une audition, Marion, pour éclaircir le mystère de la joggeuse disparue en Mayenne.
Les gendarmes doivent à nouveau entendre aujourd'hui cette jeune fille de 17 ans dont on avait perdu la trace lundi et qui a été retrouvée mardi vivante dans un restaurant de Sablé-sur-Sarthe. L'adolescente assure avoir été enlevée par deux ravisseurs, mais David Di Giacomo, de nombreuses zones d'ombre persistent.
Les enquêteurs cherchent à vérifier les déclarations de l'adolescente. En état de choc et légèrement blessée, quand elle est retrouvée en vie, Lisa explique avoir été enlevée par deux ravisseurs qui circulaient à bord d'une camionnette de couleur verte. Elle dit avoir ensuite été séquestrée avant de parvenir à s'enfuir. Les gendarmes ont donc interrogé de nombreux riverains pour savoir s'ils avaient aperçu cette camionnette. En parallèle, ils exploitent les images de vidéosurveillance de Sablé-sur-Sarthe, les éléments de téléphonie et poursuivent aussi les auditions pour reconstituer le plus précisément possible les 24 heures pendant lesquelles la jeune fille s'est volatilisée. Dans son dernier communiqué, la procureure de Laval se montre prudente. Elle ne parle plus d'enlèvement mais de disparition. 30 gendarmes restent mobilisés sur cette enquête.
Le mystère encore qui dure autour de l'agression de la footballeuse du PSG, Keira Amraoui, attaquée à coups de barre de fer il y a 8 jours. Le club doit s'entraîner aujourd'hui à huis clos, alors qu'Aminata Diallo, proche de la victime, a vu sa garde à vue levée la nuit dernière. Aucune charge retenue contre elle. Protéger des poursuites abusives, les lanceurs d'alerte, c'est l'un des enjeux de la loi examinée par l'Assemblée nationale mercredi prochain. Transposition dans le droit français d'une directive européenne, mais pas seulement. Manuel Ruffez, le texte va plus loin dans le soutien de ceux qui voient souvent leur vie totalement bouleversée.
Il y a bien sûr l'absolue nécessité de protéger les lanceurs d'alerte, mais l'enjeu va au-delà, soutient l'auteur de la proposition de loi, le député Sylvain Wasserman.
Je crois aujourd'hui que les lanceurs d'alerte, ce sont des piliers de nos démocraties. Et la façon dont nos démocraties les protègent, ça devient un véritable enjeu pour nos démocraties modernes.
La proposition de loi va donc lister les autorités indépendantes auxquelles s'adresser, protéger les lanceurs d'alerte d'éventuelles représailles et les aider surtout à assumer les coûts de justice.
Le juge pourra affecter les coûts de la défense à l'attaque. Donc je suis un intérêt financier puissant qui veut écraser un lanceur d'alerte. Eh bien, je devrais assumer non seulement mes frais de justice personnelle, mais aussi les frais de justice du lanceur d'alerte que je veux étouffer.
Ce sont de belles avancées, reconnaissent les organisations et syndicats à l'origine de la création en 2018 de la Maison des lanceurs d'alerte à Paris, même si l'aspect pénal n'arrive pas à convaincre totalement Glenn Millot, son délégué général.
S'il y a des lanceurs d'alerte, ça montre bien que l'aspect dissuasif ne fonctionne pas, puisque ces lanceurs d'alerte montrent que des personnes transgressent les lois, les règlements, vont créer des problèmes pour l'environnement, pour la santé, finalement ne sont pas dissuadés par les sanctions qui peuvent exister dans différents domaines.
La Maison des lanceurs d'alerte réclame aussi la création d'un fonds de soutien financier, seule manière pérenne et solide, selon l'association, de pourvoir aux besoins de ces lanceurs d'alerte.
Et tout cela tombe au moment où la lanceuse d'alerte de Facebook se trouve en France, Frances Haugen, invitée exceptionnelle de la matinale d'Inter à 8h20. Allez, si vous êtes en région parisienne, je vous propose d'embarquer sur le RER B. Le festival Ciné-Banlieue vient de démarrer en Seine-Saint-Denis. En vedette, les talents du 7e art issus des quartiers populaires. Et au programme ce soir, Alexis Demeyer, la projection du nouveau documentaire de la Césarisée, Alice Diop.
Ça, c'est les avions qui vont faire un jour de vol, frère.
Le RER B, la réalisatrice Alice Diop l'empruntait enfant lorsqu'elle vivait à Aulnay-sous-Bois. Pour son nouveau documentaire intitulé « Nous », Alice Diop refait le trajet et filme les habitants des villes desservies par ce train qui traverse l'Île-de-France du nord au sud.
C'est un film qui parle de la banlieue, mais plus que la banlieue, d'une société, de qu'est-ce que ça veut dire une communauté, de comment faire nous avec des gens très différents, des gens qui ont une mémoire très différente, des récits très différents. La banlieue est un territoire très vaste, un territoire extrêmement complexe. Cette complexité-là, je n'en vois pas souvent le récit, aussi bien dans le cinéma que dans les médias.
Mettre en lumière la banlieue, encore trop souvent marginalisée dans le cinéma français, c'est la raison d'être de l'association Extramuros qui organise le festival Ciné-Banlieue. L'acteur Reda Kateb en est le parrain depuis 2012.
Ce qui me plaît dans le concept, c'est évidemment le temps fort du festival, mais également l'accompagnement à l'année des jeunes talents issus des banlieues. Il ne faut pas cantonner l'imaginaire des gens qui viennent des banlieues à la banlieue. Il faut pouvoir avoir les moyens de raconter toutes les histoires, peu importe d'où on vient. Les choses avancent, mais il y a encore du chemin.
Reda Kateb qui sera présent demain à Saint-Denis pour présenter Les Promesses, film tourné dans le 93 avec Isabelle Huppert.
Le festival Ciné-Banlieue en Seine-Saint-Denis jusqu'à jeudi prochain. Enfin, si je vous dis légumes, Nicolas, vous me répondez quoi ?
Le chou.
Ben, en tout cas, vous ne me répondez pas. Hot dog, bravo. Pourtant, aux États-Unis, une étude portant sur des enfants de Caroline du Sud montre que 40% des interrogés prennent le hot dog pour un produit végétal. Bien. Et à 7h13, ce matin, je vous laisse déterminer l'origine de vos cafés et de vos croissants.
Merci Marion Lourd. Dans 3 minutes, c'est Secret d'Info. Comment le Covid a crispé les Français ?